10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Gilets jaunes et marée violette hier en France. La première manifestation a parfois dégénéré, notamment sur les Champs-Élysées. La seconde, plus importante et pacifique, celle-ci, a rassemblé plusieurs milliers de personnes sous le slogan « Ras le viol ». Réunies sous le hashtag « Nous toutes », des femmes, des hommes aussi, sont descendues dans la rue pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles qui perdurent en France dans des proportions encore incroyables, l'impunité de leurs auteurs et le manque de formation des services publics pour prendre en compte ce fléau. L'égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat, c'était il y a tout juste un an. Où en est-on? Quel chemin reste-t-il à parcourir? Quel est l'engagement du gouvernement vis-à-vis de la première des inégalités, ces violences faites aux femmes? Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci du grand rendez-vous. Un grand rendez-vous qui se déroule pour la première fois dans notre nouveau studio Merlin, de nos nouveaux locaux. Merci de les traîner avec nous.
Avec
Marlène
plaisir.
Schiappa, vous êtes secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Nous allons évidemment parler avec vous des gilets jaunes, de la situation politique du moment. Mais on va commencer par les femmes, le combat des femmes, parce que je le disais, elles étaient très nombreuses hier dans la rue, plus nombreuses finalement que les gilets jaunes. Pour vous interroger, Nicolas Barré, qui dirige Les Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous.
Et Damien Fleurot, chef du service politique de CNews. Damien Fleurot qui vous pose la première question.
Bonjour Marlène Schiappa. Hélène en parlait effectivement aujourd'hui, 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Des milliers de femmes, des hommes aussi à Paris, à Lyon, à Nantes, à Marseille pour dire stop à l'impunité, stop à l'indifférence. Vous avez salué ces rassemblements citoyens. Vous étiez dans la rue à leur côté?
Non, parce que moi je suis très respectueuse de ce caractère citoyen justement du rassemblement. Il n'y a rien que je déteste plus que la récupération politique.
C'était une récupération politique, les personnalités, les élus que l'on a vus?
Pas du tout, mais ils ne sont pas membres du gouvernement. Dans cette manifestation, il y avait deux dimensions. D'abord, c'était interpeller la société pour faire en sorte que la société ne s'arrête pas après l'élan de MeToo et prenne en compte ce sujet gravissime des violences sexistes et sexuelles. Et il y avait une deuxième dimension, et Hélène Jouan vient de la rappeler, c'est une interpellation aussi du gouvernement. Donc je ne vais pas m'auto-interpeller, mais inversement...
Parce que justement ces manifestants dénoncent aussi des politiques finalement pas suffisamment ambitieuses en la matière.
C'est pas ce que j'ai entendu dans les slogans. Moi j'ai regardé, j'avais forcément énormément d'amis qui étaient présentes et qui m'en ont rendu compte. Et j'ai bien sûr échangé avec les associations très longtemps. J'ai reçu les associations féministes le jeudi qui précédait la manifestation. Moi ce que j'entends c'est qu'on nous demande de faire plus, mieux et plus vite. Et ça je le partage. Moi je vais vous dire très sincèrement, je partage la totalité des slogans et des pancartes que j'ai pu voir dans cette manifestation.
Mais vous êtes en responsabilité.
Mais c'est pour ça qu'on agit. Mais si vous voulez, moi j'hérite d'une situation et ça fait 18 mois qu'on a fait énormément de choses. Je ne vais pas vous égrener les 127 mesures que nous avons mises en place.
Non.
Mais par exemple, la verbalisation du harcèlement de rue, l'allongement des délais de prescription pour les viols quand ils sont commis sur des mineurs, etc. etc. Mais je partage ce sentiment d'urgence des manifestantes. Quand vous avez des professionnels de la justice, par exemple, qui ne sont pas formés pendant des générations et que vous avez un sexisme qui imprègne toute la société, nous devons lutter contre cette impunité, c'est ce que fait le gouvernement. Les manifestantes nous demandent de faire plus, mieux et encore plus loin. Et je partage cette demande et cette impatience avec elles.
Nicolas Barré.
Le Haut Conseil à l'égalité se demande, c'est le titre d'ailleurs d'un rapport qui vient d'être rédigé, où est l'argent contre les violences faites aux femmes? Ce Haut Conseil estime qu'il faudrait mettre 500 millions d'euros sur la table pour lutter contre ces violences. Aujourd'hui, c'est, je crois, 79 millions. Est-ce que vous entendez cet appel?
Bien sûr, mais moi, vous savez, j'ai fait partie des gens, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai un engagement associatif de longue date pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, quand je suis arrivée aux responsabilités, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir mon camarade Gérald Darmanin pour lui demander plus d'argent.
Et alors, il a dit non ?
Et j'ai été entendue. Non, il a dit oui. Je vous rappelle quelques chiffres. D'abord, le budget, il a été en augmentation considérable. On est à 530 millions sur 2019 qui ont été votés pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un record historique.
Mais là, ce sont des lignes budgétaires qui sont prises dans tous les ministères.
Alors,
on est
bien parce que forcément, on parlait tout à l'heure de la plateforme qu'a annoncé le Premier ministre, une plateforme pour que les victimes parlent avec des policières et des policiers. C'est pas mon ministère qui la paye, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc bien évidemment, on est sur des politiques interministérielles. Et puis deux autres chiffres, si vous me permettez. Ouais. D'abord, le Premier ministre a engagé 4 millions d'euros, donc pas sur mon budget, sur son budget, sur Matignon, millions pour financer une grande campagne télévision pour interpeller justement les témoins des violences sexistes et sexuelles, parce qu'on arrivera à éradiquer ces violences quand les témoins interviendront. Quand vous voyez un cambriolage, vous appelez la police. Quand vous voyez une femme qui est frappée ou violée ou agressée, malmenée, on veut que vous appeliez aussi la police.
4 millions d'euros, pardonnez-moi, vous savez combien on a dépensé pour la sécurité routière pendant des années par
justement an j'ai pas le chiffre en tête, mais
12
oui,
millions
que, tout à 12 fait millions. Tout à fait, mais vous savez qu'on est à une époque où il y a des choses. La sécurité routière, c'était sous Jacques Chirac. Nous calquons ce qu'a fait Jacques Chirac dans la méthode sur l'égalité entre les femmes et les hommes,
mais avec moins de moyens, semble-t-il.
Non, parce que justement ce que je vous explique, c'est qu'on était à une époque où il fallait absolument dépenser de l'argent pour communiquer. À notre époque, on peut communiquer grâce aux médias, et je vous en remercie, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux vidéos, etc., etc., avec pas forcément autant d'argent. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, et après j'arrête de vous égrener des chiffres, mais dans mon budget communication, il y a justement plus de 400 000 euros que je n'ai pas utilisés, que je devais dépenser jusqu'à la fin de l'année, comme quoi on peut communiquer justement avec moins d'argent. Et j'ai demandé au Premier ministre de reflécher ces 400 000 euros de mon budget communication en subvention en direction des associations. Donc il y a beaucoup d'associations qui vont voir leur subvention doubler cette année par cette redirection.
Donc là, c'est ce que vous annoncez aujourd'hui, 400 000 euros de subventions supplémentaires.
Absolument,
pour un certain nombre d'associations.
Voilà, le Mouvement d'Unis, par exemple, qui accompagne les femmes en sortie de la prostitution, on double leur subvention. L'association Excision, parlons-en, fait plus 300% qui accompagne les jeunes femmes pour pas qu'elles soient excisées. Il y a 53 000 femmes excisées en France, je le rappelle. Le collectif féministe contre le viol, on avait déjà rajouté 60 000 euros, on rajoute 100 000 euros, ça fait plus
50%. Ça, ce sont des budgets qui suivront dans les prochaines années ?
Alors là, c'est ce qu'on fait pour cette année. Ensuite, le budget, il est sanctuarisé pour la totalité du quinquennat, puisque c'est le budget de la grande cause du quinquennat. Mais là, ce sont des abondements. Donc, on verra pour les années qui suivent. Mais là, ce sont déjà des montants exceptionnels. Jamais ça n'est arrivé qu'on double autant de subventions d'associations féministes.
Donc, un plus pour cette année. Les chiffres sont terribles. On ne les a pas rappelés. Il y a encore 200 femmes qui sont violées par an, 123 femmes qui sont tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon.
Une tous les trois jours en France.
220 000 femmes qui ont subi des violences de la part de ces mêmes conjoints. Et pourtant, il y a toujours un peu ce sentiment d'impunité. Oui. On a appris qu'il y avait 70% des plaintes pour violences sexuelles qui ont été classées sans suite. Comment vous expliquez ce paradoxe, c'est une question de formation, ou c'est parce que notre société n'a pas encore accompli cette révolution culturelle nécessaire?
Je crois qu'il y a un mélange de tout ça, mais moi, c'est ce qui me révolte et c'est ce qui a été à l'origine de mon engagement sur ce sujet, parce que j'avais produit des travaux de recherche justement sur l'impunité des violeurs il y a quelques années. Nous, ce que nous faisons, c'est que d'abord, nous renforçons la formation des magistrats avec la MIPROF, la Mission Interministérielle de Protection des Femmes, avec des professionnels, une magistrate à sa tête qui s'appelle Elisabeth Moirombreau et qui anime des ateliers, des travaux de formation pour les professionnels de la justice. Pourquoi ?
Et ça va très vite concerner beaucoup de monde ?
Voilà, mais je vous explique pourquoi. Parce que quand vous n'êtes pas sensibilisé à la question des violences sexistes et sexuelles et que vous devez rendre un jugement et qu'on vous dit « Cette femme, certes, elle a été violée, mais à aucun moment elle ne s'est débattue, elle n'a pas crié. Alors est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas consentante ?» Si vous n'êtes pas formé à comprendre ce que c'est que le mécanisme de la sidération, qui fait que vous êtes sidéré et vous ne pouvez pas toujours vous débattre, justement, vous ne pouvez pas rendre un jugement équitable.
Mais pourtant,
donc c'est
Marlène
important Schiappa, pour nous.
La réforme de la justice, elle privilégie justement la médiation. Est-ce que ce n'est pas justement contraire à ce que vous nous dites là, cette sensibilisation, cette formation nécessaire des magistrats?
Pas sur ces sujets, puisque la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a elle aussi un engagement de longue date quand elle était rectrice dans une autre vie contre les violences sexistes et sexuelles. Donc nous sommes justement déterminés à faire en sorte que ce soit efficace et nous allons installer dans les jours à venir avec la garde des Sceaux un groupe de suivi de la loi que nous avons votée, puisque cet été a été votée à l'unanimité une loi pour renforcer les condamnations des violences sexistes et sexuelles. Nous allons installer un groupe de suivi de ces condamnations pour vérifier l'efficacité. Et si ça n'est pas assez efficace, nous ferons des lois encore plus contraignantes.
Il y avait un collectif d'avocats dans Le Monde cette semaine qui disait qu'il y a encore le droit français qu'il faudrait adapter parce qu'il y a encore des choses, par exemple, qu'on sait faire en Espagne, qu'on ne sait pas faire en France. Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous avez ?
Oui, tout à fait. C'est lié à la Convention d'Istanbul. Vous savez que la France a signé et ratifié la Convention d'Istanbul. Et dans cette convention, il est indiqué que les États s'engagent à avoir une loi contraignante sur le viol dans lequel on parle de consentement. Dans la loi française, on ne parle pas de consentement. Un viol, c'est une pénétration obtenue sous menace, violence, contrainte ou surprise. Il ne s'agit pas de prouver un consentement ou un non-consentement. La Convention d'Istanbul, et d'ailleurs Amnesty International a aussi interpellé la France récemment sur ce sujet, nous demande d'y réfléchir. Donc nous allons y réfléchir, nous allons lancer une mission avec des professionnels pour voir s'il est nécessaire de modifier cette loi pour mettre fin à cette forme d'impunité qui est intolérable.
Elle a été ratifiée en 2014 hein, par la France.
Absolument.
Et on est en 2018.
Tout à fait. Nicolas Barré. En 2017.
Nicolas Barré. On l'évoquait, la loi sur les violences sexuelles et sexistes, elle est toute récente, elle date du 3 août. Elle prévoit de réprimer le harcèlement de rue. Donc, bien que ce soit tout récent, est-ce que vous pouvez déjà nous dire quel est le bilan de cette loi ? Et puis, cette loi, je crois, prévoyait des stages de civisme pour ceux qui sont convaincus d'avoir effectivement harcelé des femmes dans la rue. Est-ce que des hommes, aujourd'hui, suivent des stages de civisme ? Est-ce que ça arrive ? Quelle est l'échelle d'application de la loi ?
Je vais commencer par la deuxième partie de votre question. C'est quelque chose qui a été rajouté par les parlementaires, parce que les parlementaires se sont véritablement engagés dans cette loi. Il y a eu beaucoup d'amendements très intéressants, et notamment celui-ci. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de condamnation à des stages qui étaient effectués. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cette loi est récente, elle a été promulguée très récemment, et nous n'avons pas encore fait de circulaire d'application. C'est-à-dire qu'avec Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, nous allons bientôt rencontrer les préfets pour justement leur demander de mettre en œuvre cette loi et de verbaliser.
Mais néanmoins, elle ne s'applique pas, alors,
elle s'applique, j'allais y venir. Néanmoins, bien que nous n'ayons pas encore enclenché cette démarche, parce qu'il y a une question de processus et de temps, eh bien, il y a déjà eu des condamnations pour harcèlement de rue. Et moi, ce qui me réjouit, il y en a eu plusieurs, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais plusieurs. Ce qui me réjouit, c'est qu'il n'y a pas de dégradation des condamnations. C'est-à-dire une crainte qui avait été soulevée par tel ou tel expert à l'époque, c'était de dire, d'accord, on va verbaliser le harcèlement de rue, ça veut dire que les agressions sexuelles pourront être moins condamnées, on considérera que c'est du harcèlement de rue avec des peines moindres. Eh bien non, parce qu'il y a eu plusieurs condamnations dans lesquelles il y a une condamnation pour agression sexuelle et par-dessus, une condamnation supplémentaire pour le fait de harcèlement de rue. Donc ça, c'est positif.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec cette loi qui, vous l'avez dit, a été votée et promulguée en août dernier, vous n'êtes pas passé finalement un peu à côté du sujet ? Quand on entend ce qu'ont dit les femmes hier sur cette violence sexuelle, ces viols qui perdurent, est-ce qu'on n'est pas très loin avec cette nouvelle infraction de harcèlement de rue, par exemple.
Je pense qu'on peut me reprocher énormément de choses, mais certainement pas de passer à côté du sujet, puisque moi, j'ai fait partie des gens qui interpellaient la société sur le viol à une époque où ça n'intéressait personne. Moi, quand j'ai voulu publier mes travaux de recherche sous le titre « Où sont les violeurs ?», qui était un essai sur la culture du viol, j'étais jetée d'une dizaine de maisons d'édition qui me disaient « Vos histoires de viol, c'est pas feel good et ça n'intéressera personne, ça ne concerne personne. » Donc, ce procès-là, non. Et ensuite, sur cette loi, il n'y a pas que le harcèlement de rue. Il y a d'autres mesures. C'est une loi assez dense, comme je le disais, les députés et les sénateurs, et je salue le travail d'Alexandra Louis à l'Assemblée nationale et de Marie Mercier, qui est des Républicains au Sénat, mais qui a fait aussi un travail très constructif. Elle est dense. Par exemple, on allonge les délais de prescription pour les viols. Avant cette loi, vous ne pouviez aller déposer une plainte que 20 ans après votre majorité. On a allongé de 10 ans. Maintenant, vous pouvez y aller 30 ans après
donc,
votre
majorité.
Donc,
cette loi va dans le bon sens. Elle ne suffit peut-être pas, mais elle va dans le bon sens. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, est l'invitée du Grand Rendez-vous. On parle dans quelques instants d'une autre manifestation, celle des Gilets jaunes.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, est l'invitée du Grand Rendez-vous. Alors, il y avait une autre manifestation que celle des femmes, c'était celle des Gilets jaunes.
Avec moins de monde, comme
hier,
vous l'avez rappelé.
À Paris, une question de Nicolas Barré.
Avec moins de monde, mais une manifestation qui a dégénéré sur les Champs-Élysées avec des barricades, des jets de pavés, etc. Emmanuel Macron a exprimé sa honte devant ces violences, au-delà des casseurs qui étaient manifestement venus pour ça. Comprenez-vous la colère de ceux qui manifestent et avez-vous même peut-être de l'empathie pour eux, Marlène Schiappa ?
Bien sûr, mais moi je ne confonds pas les choses. D'abord, il y a effectivement, vous l'avez dit, des casseurs, il y a des sortes de milices d'extrême droite qui se sont infiltrées et qui profitent de n'importe quel événement pour propager des messages racistes, antisémites, homophobes, sexistes et pour casser. Et moi, je voudrais ici, à votre micro, condamner très fermement ce qui a été fait et rappeler une chose. Ces gens qui se revendiquent du peuple, ils viennent, ils cassent du mobilier urbain. Mais qui est-ce qui va tout réparer ? Qui est-ce qui va tout nettoyer ? C'est pas eux et c'est pas moi non plus. Ce sont les agents publics, ce sont les agents des forces de l'ordre, des agents de la propreté, donc des gens qui ne gagnent pas des milliers et des cents. Donc ça, je trouve ça vraiment intolérable et inconséquent, au-delà du geste même des violences.
Ça c'est
pour
casseurs,
ceux qui étaient sur les Champs-Élysées. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans les Gilets jaunes et qui n'étaient pas sur les Champs-Élysées. D'abord parce qu'il y en a beaucoup qui travaillaient, il y en a beaucoup qui n'avaient pas les moyens financiers de se rendre jusqu'à Paris, et puis d'autres qui ne cautionnent pas ces violences.
Mais vous les comprenez, ceux-là, ces Gilets jaunes ?
Évidemment, ceux-là, il faut les comprendre et les entendre, parce que je crois crois que le cri qui est envoyé, c'est pas juste je vais mettre un gilet jaune pour aller casser, c'est le cri, c'est de dire je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas boucler mes fins de mois. J'entendais de nombreux témoignages et j'ai échangé avec de nombreuses personnes qui ont enfilé ce gilet jaune et qui se reconnaissent là-dedans. Et je crois qu'on ne peut qu'entendre la détresse et y apporter des solutions, et c'est ce que le gouvernement s'échine à faire.
Alors Christophe Castaner, il a pointé la responsabilité de Marine Le Pen justement dans ces violences, puisque la présidente du Rassemblement National appelait en quelque sorte les manifestants à se réunir, à se retrouver sur les Champs-Élysées, là où c'était pourtant interdit. Et il a aussi souligné l'affaiblissement en quelque sorte du mouvement, parce qu'il y aurait eu moins de monde dans les rues samedi que samedi le 17 novembre. Est-ce qu'il ne souffle pas un peu sur les braises en faisant ça, Christophe?
Non, moi je voudrais saluer vraiment le travail remarquable des forces de l'ordre et de mon collègue le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, puisqu'il y aurait pu avoir des drames et des débordements bien plus graves que ceux que l'on a vécu, et ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est parce que les forces de l'ordre sont organisées et se sont mobilisées. Mais pour revenir au sujet de fond, moi je voudrais dire que le gouvernement est pleinement mobilisé pour faire en sorte que la situation économique individuelle de chaque personne et collective du pays s'améliore.
Ici, et avec pourtant, nous, il y a encore des manifestations.
Ici, bien sûr, je termine juste là-dessus. Ici, avec nous, nous avons ma collègue Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État et qui travaille avec Bruno Le Maire à l'économie, à faire en sorte qu'il y ait des créations d'emplois, des emplois qui soient sauvés, des entreprises, des industries qui s'implantent en France et qui créent des emplois. C'est un travail de fourmi et de longue haleine, mais qui est mené sérieusement par le gouvernement.
Marlène Schiappa, pardonnez-moi, vous avez dit qu'il faut entendre le cri de colère qui émane des bons gilets jaunes, entre guillemets,
non,
casseurs.
Je donne de leçons à personne, je ne trie personne, mais j'entends, je dis qu'il faut entendre ce cri. Oui.
Sauf qu'on ne comprend pas très bien la ligne du gouvernement. La semaine dernière, Édouard Philippe va à la télé, digne fils d'Alain Juppé, il dit « on bouge rien, droit dans ses bottes ». Et puis, quelques jours plus tard, Emmanuel Macron annonce qu'il va faire des propositions ce mardi pour essayer de rendre cette transition écologique acceptable par tous. Vous êtes sur quelle ligne, vous ? Sur celle d'Édouard Philippe ou sur celle d'Emmanuel Macron ?
Moi, je n'ai pas du tout entendu ce que vous dites et j'ai échangé longuement et assisté à de nombreux échanges à cet égard. Et moi, je n'ai pas vu de différence entre la ligne du président de la République et du Premier ministre. Les deux disent la même chose, c'est-à-dire les deux disent « nous gardons le cap, nous faisons en sorte d'agir pour la transition écologique ». Et à cet égard, l'annonce d'installer un groupe d'experts avec des gens très reconnus comme Pascal Canfin et beaucoup d'autres qui vont faire des propositions
concrètes. Donc ça, c'est le Haut Conseil pour le Climat qui va être annoncé
absolument,
par Emmanuel
d'une part,
Macron.
Et d'autre part, le président de la République a indiqué que mardi, il ferait un certain nombre de propositions, d'annonces en tout cas, d'engagement du gouvernement pour faire en sorte que cette transition écologique, elle soit acceptée.
Mais pourquoi Édouard Philippe n'en a pas parlé dès le dimanche soir quand il est intervenu à la télévision au lendemain de la première mobilisation des Gilets jaunes?
Il y a un temps pour tout et il y a un temps pour chaque réponse.
On
et
avait
chaque
pourtant eu le temps de comprendre le malaise, la colère des Français.
Moi, je crois que le Premier ministre a voulu expliquer justement quelle était l'action du gouvernement. Il a annoncé d'ailleurs à ce moment-là une surprime pour la transition. Et je crois que la question... Je crois qu'il faut arrêter d'opposer les gens, en fait, de façon générale. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'un côté Paris, de l'autre côté les territoires. Moi, je suis parisienne, mais je suis originaire de Corse et élue de la Sarthe. Et je crois qu'il n'y a pas d'un côté les gentils parisiens, nantis, intellectuels, riches, etc. Et de l'autre côté, les gens des territoires qui souffrent.
Il y a des gens qui souffrent. Sauf qu'il y a des problèmes spécifiques aux territoires.
Bien sûr, il y a aussi des problèmes spécifiques aux banlieues, par exemple. Et je crois que si les gilets jaunes, c'était des jeunes de banlieue, bah, ça fait bien longtemps que Marine Le Pen aurait demandé un couvre-feu et aurait hurlé à l'émeute et à l'insurrection. Donc moi, j'appelle à faire en sorte de ne pas diviser les uns et les autres. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat et de fin de mois à Paris, dans les banlieues comme dans les territoires. Et je pense que la France, elle est une et indivisible. Il y a des problèmes spécifiques sur chaque territoire. Le gouvernement apporte des réponses spécifiques qui correspondent à la spécificité de chaque territoire. Ça vaut aussi pour l'outre-mer, par exemple, où il y a des problèmes particuliers et véritablement spécifiques qui demandent des réponses spécifiques.
Et où les gilets jaunes sont très mobilisés,
absolument,
notamment à La Réunion.
Mais je crois qu'il ne faut pas opposer les uns et les autres, comme il ne faut pas opposer l'écologie et le social et l'économique. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais ce n'est pas pour ça qu'ils polluent par plaisir. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre leur part à cette transition. Ils ne veulent pas être exclus de cette transition écologique. Ils ne veulent pas non plus être pointés du doigt pour cela.
Vous voulez dire qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Est-ce que, plutôt que de faire ces grandes concertations, le plus simple, ce ne serait pas aussi de renoncer à la prochaine hausse du carburant prévue le 1er janvier, 6 centimes et demi pour le diesel et 3 centimes pour l'essence? C'est ce que suggère d'ailleurs la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Plusieurs choses. D'abord, l'augmentation des prix du carburant. D'où ça vient? à plus de 70%, ça n'est pas le gouvernement, ça n'est pas le président de la République, ce sont les matières premières. Et pourquoi les matières premières, leur prix augmente ? Bien sûr, mais pourquoi habituellement elles augmentent ? C'est parce qu'il y a une instabilité dans les pays producteurs de pétrole. Mmh. Donc que fait le gouvernement pour ça ? Eh bien, le président de la République, dans le cadre de ses actions diplomatiques, travaille à la stabilité dans les pays producteurs de matières premières. Non, ça peut être aussi du court terme. Vous l'avez rappelé, les prix commencent à baisser à cet égard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je ne peux pas laisser dire que le gouvernement n'agit pas pour le pouvoir d'achat. La suppression de la taxe d'habitation pour une grande partie de la population.
Brigitte Bourguignon, qui est députée En Marche, qui est présidente de la commission des affaires sociales, demande qu'on n'applique pas cette hausse au 1er janvier.
Elle est dans son rôle. C'est le rôle des députés que de faire des propositions dans le cadre de l'Assemblée nationale. J'imagine que ce sera député.
Et le rôle du gouvernement de ne pas l'écouter. C'est ce qu'on a l'air de comprendre.
Non, pas du tout. Le gouvernement écoute. Non, vraiment pas. Moi, je vous ai expliqué tout à l'heure que j'ai construit ma loi main dans la main avec les parlementaires. Moi, je suis très respectueuse du rôle des élus de la nation. Il faut écouter. Mais le rôle du gouvernement, c'est aussi d'arbitrer, de trancher à cet égard.
Damien Fleurot.
Vous dites que vous avez beaucoup fait, et notamment ces derniers mois depuis que vous êtes en responsabilité. Une personnalité s'est exprimée cette semaine, Nicolas Hulot, et lui, il a dénoncé le manque d'accompagnement social de la taxe carbone. J'avais plaidé en ce sens, on m'a opposé des contraintes budgétaires. Vous parliez de votre collègue Gérald Darmanin au budget. C'est vrai qu'il avait plaidé en ce sens.
Alors, d'abord, moi, j'ai regardé l'entièreté de l'émission politique avec Nicolas Hulot, et ce que j'ai remarqué, c'est plutôt qu'à chaque fois qu'on essayait de le mettre dans un coin pour taper sur le gouvernement, il s'est refusé à le faire, et qu'il a plutôt eu un discours
Mais
de
confiance. Qu'ils n'avaient pas été entendus à ce moment-là.
Sur ce point,
sur l'accompagnement social.
Voilà, sur ce point en particulier. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a des ajustements qui sont en train d'être procédés. Encore une fois, le président de la République s'exprimera mardi.
Oui, mais vous, donc Marlène Schiappa, vous reconnaissez peut-être le retard à l'allumage, le manque d'anticipation de cette crise ?
Non, je ne dirais pas les choses de la sorte, puisque justement, moi je pense qu'il y a une différence entre la réalité et le ressenti. C'est-à-dire, moi je crois que ça ne sert à rien de dire aux gens « votre pouvoir d'achat, il va augmenter de plus 0,3, plus 4, plus 2, etc. » Moi, si j'appelle ma grand-mère, je lui dis « ton pouvoir d'achat en moyenne va augmenter de plus 0,4%. » Elle ne voit pas ça sur sa fiche de paye à la fin du mois. Donc je crois que ce qui est important, c'est vraiment de remettre un peu de rationalité dans le débat, de sortir à la fois des chiffres abstraits, mais aussi de sortir de la colère irrationnelle qui conjugue d'autres choses derrière, et d'aller dans le concret et de voir comment nous, gouvernement, nous agissons au concret pour cela. Par exemple, à la fin de la fiche de paye, les fiches de paye vont augmenter parce qu'il y a justement à la fin d'un certain nombre de cotisations sociales. Et ça, c'est une augmentation considérable du pouvoir d'achat in fine.
Marlène Schiappa, le tous pourri qu'on a pu entendre, émis par certains, pas par tout le monde, les attaques faites contre un certain nombre d'élus de la République, comment vous voyez ça ? Est-ce que ce sont des fractures françaises qui se sont exprimées ? Votre collègue Gérald Darmanin parlait de Brexit intérieur. Est-ce que ça vous inquiète ? Et surtout, est-ce que vous ne dites pas on est un peu responsable de ça aussi ?
Non, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a, une forme de détestation de quelque chose qu'on appelle les élites sans trop savoir qui on met dedans ou pas. Je regardais une émission télévisée l'autre jour, il y avait un représentant des Gilets jaunes qui s'en prenait à quelqu'un en lui disant « vous êtes des nantis ». Il s'avère que c'était une journaliste pigiste qui ne gagnait pas non plus des milliers des cents. On a l'impression que, moi par exemple, j'ai aucun ami milliardaire, je suis pas née dans la soie avec une cuillère d'argent dans la bouche, j'ai grandi dans une cité sur le périphérique, j'ai aucun patrimoine à part un crédit
mais
immobilier
cette fracture-là,
de 25
elle existe.
Ans.
Elle existe
elle
aujourd'hui.
Elle existe, mais elle est parfois artificielle. Moi, je voudrais regarder la composition du gouvernement. Il y a Gérald Darmanin qui vient aussi d'un milieu très populaire, qui avait une mère qui avait un métier difficile. Il y a Mounir Majoubi qui a grandi aussi comme moi dans une cité HLM. Donc je veux dire, je crois que cette fracture, elle est artificielle et qu'elle est entretenue par facilité et par populisme.
Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, est l'invitée du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. 10h-11h, Le Grand Rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, est l'invitée du Grand Rendez-vous. Marlène Schiappa, la laïcité est un combat que vous menez. Vous avez même écrit un livre sur le sujet, Laïcité. D'abord, une question personnel. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous croisez en France, peut-être que ça vous arrive, une femme entièrement voilée ?
C'est-à-dire avec un foulard ou avec une burqa ?
Non, avec une burqa, il y en a.
Alors ça m'arrive de façon rarissime de croiser une femme avec une burqa, mais c'est illégal en France. La loi française prévoit qu'on n'a pas le droit de se promener le visage masqué parce qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public. Et donc, les personnes qui portent une burqa doivent être verbalisées. C'est la loi française.
Et alors, justement, cette loi date de 2010. Oui. Est-ce qu'elle est vraiment appliquée? Combien est-ce qu'il y a de condamnations chaque année? Et puis, cette loi prévoyait que les femmes voilées qui avaient été condamnées dans ce cadre-là pouvaient devoir faire un stage de citoyenneté. Est-ce que ça arrive? Il y a des femmes qui font des femmes voilées qui font vraiment des stages de citoyenneté.
Vous avez un intérêt particulier pour les stages. Pour les stages.
Bah, écoutez, c'est dans la loi.
Non, mais vous
et
avez
on aimerait savoir si la loi est appliquée.
C'est une boutade, mais pas vraiment, parce que vous avez tout à fait raison de le rappeler. Moi, je crois que d'abord, en fait, il y en a peu qui sont verbalisés pour une raison très simple. Si on est un peu concret et qu'on sort de la théorie deux minutes, c'est souvent elles ne sortent pas de chez elles. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que les femmes qui portent une burqa, c'est un signe fort. Ça veut dire que je ne veux pas respecter les lois de la République française. J'obéis à d'autres lois. Et donc, ou on me fait obéir à d'autres lois. Et donc, très souvent, qui ne sortent même pas de chez elles. Moi, la dernière fois, pour répondre à votre question précise, que j'ai eu un échange avec une femme en burqa, c'était au Mans où je suis élue locale. J'étais responsable d'une école dans un quartier assez populaire. Et dans ce cadre-là, on m'avait signalé qu'il y avait une maman qui venait chercher ses enfants avec une burqa. On l'a signalé aux services compétents pour qu'il y ait un dialogue qui s'instaure et qu'on lui explique que c'est contraire aux lois de la République et que la prochaine fois, eh bien, il y aurait une verbalisation de la part des forces de l'ordre. Et la consigne du ministre de l'Intérieur à cet égard, elle est très claire, c'est de verbaliser chaque port de burqa comme la loi le prévoit. C'est une question d'ordre public, encore une fois, et moi je crois que ça n'a rien à voir avec la laïcité, parce que souvent ça n'est pas... Là on n'est même plus dans la religion, on est vraiment dans l'obscurantisme.
Mais justement, je venais sur le côté personnel, c'est quelque chose qui vous heurte particulièrement au-delà des consignes, etc. Comment vous le vivez, ça?
Mais bien évidemment, je veux dire, c'est l'enfermement des femmes et c'est une idéologie de la disparition des femmes. On commence par les enfermer dans des grilles de tissu et puis ensuite on leur dit justement, comme je vous le disais à l'instant, de ne plus sortir de chez elle. Et puis la suite, c'est quoi? La lapidation? Et bah, dans certains pays, oui, la suite, c'est cela. C'est la condamnation à mort pour adultère, etc., etc. Donc évidemment, ça me heurte profondément, bien sûr, en tant que femme, mais surtout en tant que citoyenne de la République française.
Mais alors, pour revenir sur la laïcité, est-ce que vous avez l'impression que la laïcité recule dans certains territoires de la République? Elisabeth Badinter, notamment, s'en inquiète. Est-ce que vous constatez ce recul dans un certain nombre de quartiers? Et comment inverser la tendance, le cas échéant?
Oui, j'ai l'impression que la laïcité est en danger et que effectivement, alors la laïcité, qu'est-ce qu'on met derrière? Effectivement, vous l'avez dit, j'ai coécrit un livre là-dessus qui s'appelle Laïcité Point, dans lequel on détaille justement ce qu'est la laïcité, parce que la laïcité, c'est pas un partage d'un gâteau entre différentes religions, c'est pas l'œcuménisme, c'est pas la plurireligiosité. La laïcité, d'abord, c'est la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire l'État ne se mêle pas de religion, les religieux ne disent pas à l'État ce qu'il a à faire, c'est cela la laïcité. Mais la laïcité, c'est aussi un cadre de vie avec une liberté de conscience et une garantie pour chacun de croire ou de ne pas croire sans être inquiété pour cela. Donc oui, la laïcité telle que je viens de la définir, bien sûr qu'elle est attaquée de toutes parts, elle est attaquée par les religieux, mais elle est attaquée aussi par l'obscurantisme. Et je crois qu'on a une alliance entre l'ignorance et l'obscurantisme qui attaque principalement les droits des femmes. Quand vous avez des jeunes femmes qui refusent de prendre des moyens de contraception, par exemple, parce qu'elles croient que c'est contraire à la nature, à leur religion, etc., oui, ça m'interpelle.
Mais on a l'impression que les choses ne changent pas, qu'il y a toujours autant de cafés où les femmes ne sont pas bienvenues dans certains quartiers, par exemple.
Mais ça, il faut lutter contre cela, et c'est pour ça que j'ai délocalisé.
Ça fait des années qu'on dit qu'il faut lutter, mais qu'est-ce qui se passe?
Oui, ça fait des années. Moi, je suis arrivée il y a 18 mois. J'ai énormément de chantiers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. C'est pour cette raison que j'ai délocalisé mon cabinet à Trappes pendant 3 jours.
Vous en avez tiré quels enseignements, justement?
J'en ai tiré l'enseignement que, justement, il y a des endroits qui sont difficiles d'accès aux femmes ou que l'on prétend difficiles d'accès aux femmes. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais à Trappes, j'ai voulu aller au marché, saluer les femmes et les hommes qui étaient en train de faire leur marché. Les autorités publiques m'ont demandé de ne pas aller au marché parce que ça allait être risqué, difficile, etc. Et avec Julien de Normandie, nous y sommes allés quand même et nous avons constaté qu'il y a des endroits dans lesquels il est difficile pour les femmes d'aller. Pas
et
le
ça
marché,
pas changé, ça.
En l'occurrence, mais les cafés, oui. Et ça n'a pas changé, c'est un travail de longue haleine. Il faut que toute la société se mobilise, il faut aider ces femmes.
Et le président de la République
femmes.
Aussi, ça doit-il pas... prendre la parole, justement?
Ça n'est pas, excusez-moi, je termine juste là-dessus, ça n'est pas... c'est trop facile de dire aux femmes qui habitent dans les quartiers, vas-y ma cocotte, va dans un café. Quand vous êtes toute seule et vous allez débarquer dans le café, vous êtes toute seule, il y a 15 types qui vont vous regarder de travers. Moi, je trouve que c'est trop facile de leur donner des leçons. Donc, c'est effectivement au pouvoir public de les accompagner et d'avoir un discours clair sur la mixité. C'est-à-dire que notre idéal républicain, c'est la mixité. Et c'est pour cela que moi, je m'oppose à toutes les décisions d'élus locaux de non-mixité, d'avoir des créneaux spécifiques pour les femmes dans les piscines, de dire qu'on va mettre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre dans certains transports en commun. Je suis opposée à ça, c'est le contraire des valeurs de la République. La République, c'est comment femmes et hommes, on partage ensemble un même espace de vie, de travail, de transport, de loisirs.
Et il manque justement une parole présidentielle forte sur ce sujet.
Je crois que le président s'est exprimé à de nombreuses reprises sur ces différents sujets, notamment quand il a travaillé sur la question des banlieues, mais aussi dans d'autres discours. C'est quelque chose qui émaille l'ensemble de ses prises de parole.
Et qu'attendez-vous de la loi de 1905 dont on commence à voir quelques éléments? Qu'attendez-vous précisément de cette...
D'abord, je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui circulent qui sont fausses. J'en suis même certaine. Par exemple, moi j'ai été très dérangée de voir dans les médias qu'on évoquait le fait que l'État pourrait donner un tampon conforme culturellement à des associations. Il me semble que ça n'est pas exact et que ça n'est pas un projet du gouvernement. Ce serait très choquant, ça voudrait dire que l'État va donner son avis pour savoir qu'est-ce qui est une bonne religion, pas une bonne religion. Ça enfreint la loi de 1905. En revanche, la loi 1905, elle n'est pas gravée dans le marbre. Il y a eu des mini-ajustements de nombreuses fois depuis que la loi existe, donc depuis 1905. Et je crois que faire en sorte de permettre d'avoir une clarification, notamment du financement des religions, c'est quelque chose qui
et
va
plutôt dans le
bon sens.
Et notamment, évidemment, de l'islam.
Oui.
Puisque c'est ça qui est en question aujourd'hui. Nicolas Barré.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les réseaux sociaux qui véhiculent racisme, antisémitisme, sexisme, etc. Je prends un exemple très précis qui est Enda Ayari, qui est l'une des victimes présumées de Tariq Ramadan. En ce moment, elle subit des insultes à longueur de journée sur les réseaux sociaux. C'est des choses absolument extrêmement violentes. Pourquoi d'abord ne pas réunir ces représentants des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., et essayer d'agir pour stopper ce flot de haine?
Alors d'abord, ça, le président de la République lui-même l'a fait à plusieurs reprises. Par exemple, lorsqu'il a fait l'événement Tech for Good, il a interpellé justement les acteurs. Il y avait Mark Zuckerberg lui-même qui était présent. Et donc l'État va placer des régulateurs, a déjà placé, puisque c'est un partenariat qui est récent mais qui existe, des régulateurs avec Facebook pour faire en sorte qu'on supprime plus rapidement les contenus.
Et Facebook, pour l'instant, sur Twitter, effectivement, pour reprendre ce cas précis, c'est absolument monstrueux.
Je le partage. Et moi-même, j'ai interpellé les réseaux sociaux. Enfin, pardon, ce qui est fait par exemple par Twitter, ou plutôt ce qui n'est pas fait, mais c'est lamentable, c'est honteux.
Et c'est tous les jours.
Absolument. Là, on parlait de loi de la République, les réseaux sociaux font leurs propres lois et n'appliquent pas les lois de la République. Et même si vous allez déposer plainte et que vous allez adresser ça à Twitter, Twitter laisse en ligne des contenus antisémites, racistes, sexistes, homophobes, anti-musulmans, très violents, avec y compris des images, du harcèlement. Et ça, c'est inadmissible. Donc nous les avons déjà réunis, nous leur avons dit cela de façon très ferme. Moi, je suis prête à aller très loin. Si les réseaux sociaux ne bougent pas, on leur donne quelques mois, je suis prête à faire une loi contraignante, à me mobiliser encore davantage, y compris avec des pénalités, parce que je trouve que c'est
intolérable. Sanction à la clé,
mais bien
pénalisation.
Il y a des vies en jeu derrière. J'étais avec Jean-Michel Blanquer et Brigitte Macron dans un établissement qui lutte contre le harcèlement. Si le harcèlement s'arrête dans l'établissement mais perdure sur les réseaux sociaux, c'est de cette manière qu'on aboutit à des suicides de jeunes personnes derrière. Donc il y a une responsabilité des réseaux sociaux et actuellement les réseaux sociaux ne sont pas à la hauteur et ne prennent pas leurs responsabilités.
Un autre sujet dont vous avez la charge, on assiste à une explosion des actes antisémites, 69% sur les 9 premiers mois de l'année. Comment est-ce que vous l'expliquez d'abord? D'où vient cette explosion, en quelque sorte?
Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une montée des violences dites gratuites et des violences liées à la haine. On assiste en même temps, et je crois que ces deux chiffres...
Les actes antisémites, plus 69%.
Voilà, absolument. Et c'est extrêmement préoccupant, c'est une explosion. Mais on assiste en même temps à ces plus 69% d'actes antisémites et à plus 34% d'actes homophobes, lesbophobes et transphobes. Ce sont des actes de haine de l'autre. Donc je crois qu'il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a une montée de l'islamisme radical et d'un certain nombre d'idéologies qui y sont liées. Ensuite, vous avez une montée des populismes. Et le populisme, c'est quoi? C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Donc les réseaux d'extrême droite, les milices dont on faisait état tout à l'heure, qui vont tabasser ce qu'ils considèrent comme être en dehors du cadre de ce que eux-mêmes considèrent comme ce qu'ils appellent des Français de souche et des gens qui cochent bien toutes les cases de ce qu'il faut être pour correspondre au bon blanc de la milice d'extrême droite validée et tamponnée. Et ensuite, vous avez ces phénomènes de violence gratuite et de violence exacerbée. Quand vous avez cette impunité sur les réseaux sociaux et que des gens sont traités de sales PD, sales juifs, sales sale arabe, etc., toute la journée, que les gens envoient ça et qu'il y a une impunité, qui disent « Ah, bah c'est cool, j'ai le droit de dire ça, je suis pas puni », ils n'ont aucune raison de ne pas passer à l'acte derrière.
Donc sanctions peut-être, menaces en tout cas de sanctions si
les réseaux sociaux. Bien sûr, et sur l'antisémitisme, avec Christophe Castaner et Nicole Belloubet, nous avons reçu les organisations représentatives qui font un travail de pédagogie et de protection remarquable et qui nous ont dit à juste titre qu'ils ne veulent pas être, eux, responsables de leur propre sécurité. C'est à l'État de le faire, non pas parce qu'ils sont des Juifs, mais parce qu'ils sont des citoyens de la République française. Donc l'État se mobilise, le ministre de l'Intérieur est au front, la garde des Sceaux assurera aussi la publicité plus exactement des condamnations pour antisémitisme, pour justement lutter contre cette impunité.
Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations, et l'invitée du Grand Rendez-vous. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission dans un instant.
Le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Europe 10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations, est l'invitée du Grand Rendez-vous, toutes les discriminations. Une question de Damien Fleurot.
Oui, Marlène Schiappa, alors on en parlait tout à l'heure, les agressions homophobes, les agressions qui visent des homosexuels. Le magazine L'Express met des victimes à sa une avec un titre choc assez, avec des chiffres qui font assez froid dans le dos, de plus en plus de témoignages d'agressions, mais parallèlement et paradoxalement, de moins en moins de plaintes. Comment est-ce que vous expliquez cette différence?
Alors, moi, ce n'est pas les chiffres que j'ai. Nous, ce que l'on observe, c'est qu'il y a effectivement...
Les plaintes pour agression homophobe sont en baisse entre janvier et septembre par rapport à l'année dernière.
Alors, nous, sur l'année, on a une augmentation des plaintes pour ces faits d'un peu plus de 30%. Mais peu importe, ce qu'on observe, c'est que, par exemple, la ligne d'écoute de l'association SOS Homophobie, pardon, elle explose. Il y a de plus en plus d'appels,
les
justement,
témoignages,
pour ces agressions. Absolument. Les témoignages, et moi, je crois, en tout cas, les chiffres du ministère de l'Intérieur nous disent que ce n'est pas juste qu'on rend plus visible ces agressions. C'est vrai qu'on les rend plus visibles, parce qu'avant, il y avait aussi ce phénomène de honte. Et maintenant, peut-être que des victimes, et je voudrais saluer leur courage, les rendent visibles et les publicisent, mais il y a aussi une véritable augmentation de ces agressions. Donc, autour du président de la République, à l'Élysée, cette semaine, le président de la République a reçu les principales associations LGBT, justement pour travailler avec elles sur un plan d'action que je vais présenter. Voilà, alors je vais les présenter demain en Conseil des ministres, puisqu'il y a des engagements interministériels. Nous sommes allés justement chez SOS Homophobie avec le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux pour les écouter. Il y a aussi des demandes de travail sur l'éducation, sur l'outre-mer. Donc c'est véritablement un plan interministériel que nous allons présenter et discuter demain.
Mais alors un plan d'action pour faire quoi très précisément?
Alors il y a largement de quoi faire. D'abord sur la sensibilisation. Moi je crois qu'il faut rappeler encore que l'homophobie n'est pas une opinion. Parce que visiblement, certains se servent de l'homophobie comme d'un argument, y compris dans des débats politiques. Et c'est notre responsabilité de rappeler que l'homophobie n'est jamais une opinion, quelle que soit l'idéologie qui sous-tend derrière.
Qui s'en sert ensuite, dans les débats politiques?
Vous savez très bien qui s'en sert. Je pense à la Manif pour tous, je pense à Sens commun, je pense à Laurent Wauquiez, je pense à Robert Ménard, je pense à Marine Le Pen. Je peux vous faire une très longue liste. Et tous leurs amis. Bruno Retailleau aussi, enfin d'autres. Mais je crois que ce qui est préoccupant,
d'homophobe aujourd'hui.
Mais je ne les traite pas d'homophobes. Je vous demande de regarder leur discours et je vous demande de regarder ce qui est dit chez Sens commun. Quand Laurent Wauquiez compare la PMA à de l'eugénisme, si ce n'est pas sous-tendu par une idéologie homophobe, c'est que c'est de la bêtise.
Je ne crois pas que Laurent Wauquiez
soit stupide. Je ne le crois pas. Donc s'il n'est pas stupide, c'est qu'il le fait par calcul et par construction idéologique. Donc, effectivement, oui, c'est un argument homophobe. Mais je reviens là-dessus parce que, bon, Laurent Wauquiez, c'est trop tard, on ne l'éduquera pas, mais à l'école, il y a un travail à faire de sensibilisation, de prévention de l'homophobie. Je crois que c'est ce travail qui doit être mené largement, et Jean-Michel Blanquer a annoncé un certain nombre d'engagements à cet égard. Et encore une fois, il faut sortir des fantasmes. Il ne s'agit pas de faire la promotion de l'homophobie, il ne s'agit pas de défendre je ne sais quel lobby LGBT.
La promotion de l'homosexualité.
De l'homosexualité, ouais. Mais non plus de l'homophobie, mais de l'homosexualité non plus. Il s'agit simplement de lutter contre cette haine. Donc il y a un volet éducatif, il y a aussi un volet évidemment répressif, puisque là nous sommes dans de la violence, il y a aussi un volet pénal et deux condamnations. Et puis, il y a des spécificités, on parlait tout à l'heure de la spécificité de chaque territoire. Moi je crois qu'en Outre-mer, par exemple, il y a un travail particulier à mener pour lutter contre l'homophobie.
Nicolas Barré.
Le président de la République a confirmé l'extension de la PMA pour toutes. D'abord, est-ce que ce genre de mesure peut aussi expliquer en retour des réactions homophobes ?
Je le crois. C'est ma conviction, elle n'est pas forcément partagée partout, mais moi je le crois. Je crois que dès lors que nous avons un débat politique sur ce sujet, eh bien, il y a des réactions très virulentes. Et moi je voudrais saluer le calme des associations LGBT parce qu'elles sont interpellées. Il y a des affiches par exemple de la Manif pour tous qui représentent leur bébé sous forme d'aubergine OGM, ce qui est au passage une insulte pour tous les enfants nés de PMA, qu'ils aient des parents homo ou hétéro. Et je crois que les associations font des réponses très calmes et très mesurées. Je voudrais les saluer.
Et alors la PMA pour toutes, c'est pour quand du coup ?
Bien, c'est pour l'année qui vient, donc 2019. Le calendrier il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il y a une inscription.
Mais plus précisément, c'est après, avant les européennes, c'est
alors, je crois que l'enjeu, c'est de faire en sorte que la loi soit promulguée le plus rapidement possible. Parce que derrière, au-delà de la théorie PMA, il y a des femmes. Il y a des femmes qui ont une horloge biologique aussi qui tourne et qui doivent pouvoir accéder sereinement dans des bonnes conditions à la PMA. Mon souhait personnel, c'est que ce soit voté le plus rapidement possible, mais même certaines associations nous disent ne bâclez pas cette loi. C'est dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. Il y a beaucoup de sujets qui se posent derrière, comme la filiation. Et l'engagement du président, c'est d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, mais c'est aussi de ne pas brusquer la société, de ne pas la crisper, d'associer le plus largement possible et de prendre le temps nécessaire pour faire une vraie bonne loi complète.
Mais c'est vous qui citiez justement les propos de Laurent Wauquiez, il y en a eu d'autres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est déjà derrière vous, en quelque sorte, ce souhait de voir ce débat apaisé et qu'on ne va pas forcément retomber dans les clivages qu'on a pu voir au moment de la discussion de mariage pour tous et que du coup, vous avez peut-être intérêt politiquement à reporter ce débat après les européennes.
Non, je ne le crois pas. D'abord parce que je pense qu'il y a des gens qui ont voté pour le président de la République, qui vont voter aux européennes et qui attendent que nous tenions nos engagements et qui sont attachés à cela. On ne les entend pas, mais c'est une majorité silencieuse. Il y a près de 70% de la population qui est prête à ouvrir la PMA à toutes les femmes. Et pour répondre sur la question du débat apaisé, moi, je trouve que le débat, il est contenu. Alors, il n'y aura jamais de consensus sur la PMA. Mais néanmoins, vous n'avez pas vu de manif fulgurante dans les rues. Vous avez vu un débat qui est aussi apaisé qu'il puisse l'être. Ça ne veut pas dire qu'il y ait un consensus, mais ça veut dire qu'il y a un débat au moins de bonne tenue. Et j'ai l'impression qu'il y a une condamnation. Je parlais de Bruno Retailleau tout à l'heure. Bruno Retailleau, il a condamné ces affiches de la Manif pour tous et c'est tout à son honneur.
Damien Fleurot.
On va parler de cette famille, justement, des Républicains. Le nom de François-Xavier Bellamy est évoqué dans l'entourage de Laurent Wauquiez pour peut-être conduire la liste des européennes au mois de mai prochain. Alors, les Français ne connaissent pas forcément tous François-Xavier Bellamy. C'est un intellectuel plutôt rangé, très, très à droite, qui s'est fait connaître justement lors des manifestations contre le mariage pour tous. Il était aux côtés des veilleurs qui manifestaient sous les fenêtres de Christiane Taubira, place Vendôme. Quel signal pourrait envoyer cette tête de liste si François-Xavier Bellamy, je dis bien si, est bien désigné par Laurent Wauquiez ?
Ça lui appartient. Moi, je ne vais pas commenter des hypothèses ou des supputations. Nous verrons au moment où la tête de liste des Républicains sera désignée. Mais je crois qu'il n'y a pas grand mystère sur la ligne idéologique que veulent poursuivre les Républicains de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire une ligne proche de sens commun.
Conservatrice ?
Plus que conservatrice, une ligne assez réactionnaire sur les sujets sociaux, sociétaux, et puis assez populiste aussi, c'est-à-dire qu'il dit aux gens ce qu'il a le sentiment que les gens ont envie d'entendre.
Nicolas Barré.
Et alors, pour conduire la liste En Marche aux européennes, c'est quoi le bon profil ? C'est une liste conduite par vous-même et soutenue par Alain Juppé ?
Comme vous y allez. Moi, je ne suis pas candidate aux élections européennes, je ne suis pas non plus candidate à la candidature. Je crois que le bon profil, ce sera une liste de rassemblement qui rassemblera le plus largement possible.
Ça, on dit toujours ça.
Non, pas toujours. Regardez, j'ai pas l'impression que Laurent Wauquiez essaye de rassembler. Il rassemble Sens commun et la Manif pour tous. Super. Pas au-delà. Nous avons envie de rassembler les gens qui défendent justement des valeurs, les valeurs de la République, les valeurs du progrès, une ligne économique cohérente.
Et qui pourrait rassembler alors ?
Il y a plusieurs noms sur la table. Il y a une commission d'investiture qui sera présidée par l'excellent Jean-Marc Borello, qui est le patron du groupe SOS.
Non, mais on parle de la tête de liste. Est-ce que ça va ? Parce que il y a eu un dîner à l'Élysée d'Alain Juppé, à Jean-Pierre Raffarin, à Pierre Moscovici, aux radicaux de gauche et aux radicaux de droite. L'idée, c'est quoi ? C'est d'essayer de rassembler tout le monde pour essayer de casser le toboggan de la popularité sur lequel s'est engagé aujourd'hui le président de la République ?
Comme vous y allez aussi. Moi, je ne dirais pas les choses comme ça. J'ai l'impression que l'idée, c'est effectivement de rassembler. Mais ça a toujours été ce qui nous a conduit. Dans le cadre de l'élection présidentielle, ce qui prévalait, c'était le rassemblement. quand le président de la République a eu, avec le Premier ministre Édouard Philippe, a créé un gouvernement, ils ont fait un gouvernement de rassemblement avec des gens qui venaient des Républicains, qui venaient du Parti Socialiste, qui venaient de la société civile, qui venaient de gauche, qui s'engageaient dans la vie politique, et des gens qui venaient du MoDem, évidemment, et un rassemblement, bien sûr, le plus large possible. C'est ce que nous souhaitons. Pourquoi ? C'est pas juste pour le plaisir de rassembler, c'est parce qu'en face, en Europe, vous avez des attaques très fortes. Tous les sujets que nous avons abordés là, la défense des droits des femmes, la protection des personnes homosexuelles, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre l'obscurantisme et des radicalités religieuses, eh bien tout ça, ce sont des sujets qui sont abordés dans le cadre de l'Europe. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir des gens qui soient fermes sur leurs valeurs et prêts à travailler avec des gens efficaces pour produire un certain nombre de choses sur ces sujets et nous protéger.
Vous, Marie-Hélène Schiappa, quelles sont vos ambitions ? Vous avez dit « je ne suis pas candidate à la candidature pour les européennes ». Vous avez renoncé il y a quelques semaines à être candidate pour présider et pour diriger La République En Marche. Les municipales, ça vous intéresse ?
Tout m'intéresse. Mais comme...
Non, visiblement, les européennes, ça ne vous intéresse
bien
pas.
Bien sûr que si. Alors, petit point sémantique. Tout m'intéresse. Et à chaque fois que je dis que quelque chose m'intéresse, on dit « Ah, elle est candidate quelque part ». Quand j'étais à Lyon avec Gérard Collomb, il y a quand même une journaliste qui m'a dit « Est-ce que ça veut dire que vous serez candidate à Lyon ?» Non. En fait, les élections européennes, ça, je ne suis pas candidate, mais elles m'intéressent.
Et les municipales, est-ce que ça vous intéresse dans une ville en particulier ?
Les m'intéressent comme les élections européennes. Je suis actuellement élue locale au Mans, mais on verra ce qu'il en est à ce moment-là. Pour l'instant, je ne suis pas candidate ni au Mans, ni à Paris où je vis, puisque je soutiens la candidature de Benjamin Griveaux. Comme vous le savez, je souhaite qu'il soit notre candidat à la mairie de Paris.
Mais il y a tellement d'autres candidats. Merci Marlène Schiappa
Merci
d'avoir été
vous.
L'invitée du Grand Rendez-vous. Merci d'avoir donc inauguré et traîné avec nous ce très beau studio Merlin.
Avec
Merci
plaisir.
À tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous évidemment la semaine prochaine à la même heure. Très bonne journée et très bonne semaine à tous.
Merci Hélène Jouan. On retrouve en effet le Grand Rendez-vous Europe 1 CNews et Echo dimanche prochain à 10h.